Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 39 de l'apéro des papas manchots. Je suis ravi de vous retrouver et retrouver tout seul. Et oui, pour la toute première fois, je fais une émission en solo, tout simplement parce que les dernières semaines ont été un petit peu compliquées au niveau organisation des enregistrements. Et comme c'est une année bissextile, il fallait bien un épisode un peu bancal. Voilà, c'est moi tout seul qui vais le faire. Tout d'abord, je suis ravi puisque j'ai eu la chance de faire un petit voyage assez loin. Donc, on va en parler dans quelques instants. Et tout d'abord, je suis aussi ravi parce que, on va dire que la situation personnelle évolue un peu plus positivement, et ça fait grand plaisir. Donc, on va pas ménager le suspense trop longtemps, je vais vous parler rapidement de ce voyage, et en même temps, rassurez-vous, je vous donnerai une petite surprise à la fin. Voilà, donc le voyage était en Tunisie, j'ai eu la chance de partir jusqu'à aujourd'hui, donc là je suis rentré il y a à peine quelques heures. Ça fait très drôle de revenir chez les ch'tis avec de la pluie, du vent et 10 degrés, alors que la veille on était sous 24 et avec des babouches au pied de la piscine. Bref, que du bonheur. Alors, où étions-nous en Tunisie? Nous étions à Sousse. Alors, Sousse, c'est une grosse station balnéaire. C'est la troisième ville de Tunisie. Je crois qu'il y a 900 000 habitants. C'est vraiment un gros pôle touristique là-bas. Alors, mon ressenti sur la ville, disons que déjà, la chose qui est très positive, c'est que globalement, les Tunisiens sont gentils. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris. Alors, certes, tu es touriste, tu sais que plus ou moins, ils veulent quelque chose. Maintenant, il y a quand même toujours un sourire, une attitude qui fait qu'ils inspirent la sympathie. Et ça, c'est vraiment bien. Ils rayonnent par leur sourire. Vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui chez eux, c'est qu'ils sont tout le temps en train de sourire. Une autre chose qui m'a marqué, c'est que lorsqu'on est dans un gros pôle touristique comme ça, on ressent le ressenti des événements des dernières années. Donc, il faut vous souvenir qu'en 2011, il y a eu la révolution. On s'en souvient, c'était un peu l'apogée de WhatsApp et autres BBM, BlackBerry Messenger de l'époque, pour justement l'expansion des messages. Et des messages parce que justement le gouvernement voulait un petit peu censurer, etc. Donc on va revenir sur un aspect liberté et geek, comme quoi dans l'apéro des papas manchots, on y revient toujours. Et dans un second temps, donc après cela, il y a eu un renversement l'ancien président, et je vais continuer un petit peu dans cette petite parenthèse-là. En gros, la pression qu'il disait, c'est que les présidents, ça s'alterne, ça revient. La révolution a ramené une bonne chose, c'est la liberté d'expression, mais aussi, il faut savoir que la devise, donc le dinar, a été aussi dévalorisé, parce que, en gros, on achetait pour 1 euro, on avait 1,4 dinars en 2011, on passe maintenant à 3,08 actuellement. Donc la monnaie a été dévalorisée. Maintenant, le seul président qu'ils apprécient et qu'ils ont apprécié, c'est celui qui était élu après le protectorat français. C'est Bourguiba. Et d'ailleurs, nous avons eu l'opportunité de visiter son mausolée, qui est un monastère dans sa ville natale. D'ailleurs, très beau mausolée où il y a sa famille et quelques membres. Non, il n'y a que sa famille, pardon, excusez-moi. Son épouse et ses cousins. Par contre, je crois que depuis sa mort, il n'y a plus d'autres personnes qui ont le droit d'être enterrées auprès de lui. Et donc, le mausolée est dans un très grand bâtiment. Avec du marbre, des gardes du corps partout. C'est vraiment très impressionnant à voir, surtout quand on sait que c'est qu'une tombe, quoi. Donc, je veux dire, voilà, c'est quand même un sacré monument pour une personne. Bref, revenons à nos moutons. Je reviens à la Tunisie, je reviens à Sousse, et on revient également sur cette situation, comme je disais, ces gros pôles touristiques, comme suite à la révolution. Et aux attentats de Tunis en 2015, eh bien, on a l'impression d'être dans une sorte de bunker. Je vous dis ça pourquoi? Bah, tout simplement, il y a des endroits qui sont complètement bloqués par des agents de sécurité ou la police ou l'armée. Et par exemple, pour entrer dans l'hôtel, bah, vous avez des fouilles. Fouilles sous les véhicules, fouilles avec des caméras, fouilles également des bagages à l'aéroport, c'est assez drastique, même beaucoup plus qu'en France. Petite parenthèse également, lorsque vous passez actuellement l'arrivée à Tunis, vous avez des passages au coronavirus, pour le coronavirus, donc contrôle de fièvre et température corporelle. Donc c'est quand même un peu. Bah, ouais, c'est une caméra, je pense que c'était plutôt une sorte de caméra thermique. Alors, température avec un petit thermomètre frontal pour les enfants et caméra thermique pour les adultes. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et même le contrôle des bagages est assez strict, hein, vraiment, comparé à la France. Moi, j'étais surpris, quoi. On voit qu'il y a vraiment ce dispositif. Il y a une peur de perdre de nouveau les touristes par un événement majeur, que ce soit bah, ce virus ou un événement plus dramatique qui serait un attentat ou une quelconque attaque. C'est pour ça que c'est vrai que bah, quand on arrive dans ces pôles-là, on est également passé rapidement par Hammamet, c'est pareil. Vous avez des barrières de sécurité à l'entrée de chaque hôtel, c'est fouillé. Les employés doivent être identifiés avant de rentrer dans l'hôtel. Voilà quoi, c'est vraiment bah, pour qu'un taxi rentre à l'hôtel, c'est un peu compliqué, il faut mieux aller les chercher à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Bref, on a eu également l'opportunité de voyager quelque peu en dehors de ces gros pôles touristiques, puisqu'on a eu l'opportunité d'aller dans le désert, du côté de Douze, et notamment sur le retour pour aller dans une autre grande ville, plus pour le côté spirituel qui est Rouen. On a visité, plutôt on est passé par des endroits qui ne sont pas reconnus comme étant très touristique, et on voit qu'également bah, il y a un autre aspect, c'est que on a quand même globalement l'impression que il y a une certaine alors je pense qu'il doit y avoir un gros taux de chômage. Je dis ça pourquoi, c'est qu'on a vu quand même beaucoup de gens qui étaient en plein après-midi dans les rues, qui étaient aux terrasses de café. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'activité dans certains endroits. Il faut savoir que de toute façon, le plus gros secteur de la vie tunisienne, c'est le tourisme et ensuite c'est l'agriculture. Donc les gros pôles d'activité économique sont ces deux secteurs-là. Ce qui est surtout impressionnant, c'est que ça, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est qu'il faut se dire que quand vous êtes en train de voyager dans des endroits, notamment ben, près du désert, on trouve des déchets, et vraiment des déchets de toutes sortes, que ce soit des sacs plastiques, des bouteilles, et il y a des endroits, c'est sur, c'est qu'on dirait des mini-décharges, un peu partout. Alors, dans les gros pôles touristiques, on voit qu'il y a des bennes à ordures. On a quelques endroits où il y a des petites pou des poubelles. Hein. On a visité un autre endroit touristique qui est Port El Kantaoui. Il y avait des poubelles un peu partout et qui c'était relativement propre. L'hôtel où on est, c'était très propre. Hein. Je veux dire, les jardins sont très bien entretenus. Mais vous faites quelques kilomètres en dehors de la ville, vous voyez que c'est déchet. Mais des déchets à tel point, on a même vu des carcasses de voitures, des voitures brûlées. Il y a des choses qui sont un peu un peu surprenante. C'est vraiment qu'on a l'impression que. Et ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas les gens. Alors, est-ce qu'ils ont pris l'habitude? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui n'est pas encore entré culturellement? Je peux pas juger. Peut-être qu'il n'y a pas d'infrastructure pour récupérer les déchets suffisamment cohérente. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça marque les touristes et les visiteurs de voir ça parce on a l'impression qu'en France, on est fort branché, trier des déchets, réduisant les déchets. Et eux, bah, c'est pas vraiment le cas. De toute façon, on va dans un magasin, ils nous donnent des sacs en plastique. Ils sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Alors après, c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres contraintes. C'est ce que je me faisais comme réflexion. Le niveau de vie, bah, on le voit, c'est pas très élevé. Je crois que on m'avait dit le SMIC, il est entre 130 et 150 euros par mois. Et je crois que le salaire médian, ça va être entre 350 et 400 euros par mois. Donc voilà, ils ont des charges. Alors certes, le niveau de vie n'est pas aussi élevé, hein, même pour un touriste, on le voit, puisque on a eu l'opportunité de faire des prestations dans de spa et autres soins et massages. C'est quand même entre 2,5 et 3 fois moins cher. Vous allez acheter si vous négociez bien, une belle paire de babouches, vous la payez même pas 5 euros. Voilà, donc il y a des choses qui sont quand même. Voilà, ça se prouve. Et c'est pour les touristes. Donc je pense que pour les Tunisiens, les tarifs ne sont pas les mêmes, quoi. Paradoxalement, après, vous avez à Sousse le mall, qui a l'air d'être. Alors de l'extérieur, ça ressemble à un centre commercial comme on a un peu partout en France. Hein. Notamment, il y a un supermarché Carrefour, il y a un Décathlon, il y a un Cicroplex Pathé. Mais je pense que ça, c'est pas réservé à tout le monde. Parce que, bah, pour vous donner l'idée, lorsque vous allez là-bas, de l'extérieur, on voit ne serait-ce qu'il y a des valets pour gérer les sacs et des voituriers pour stationner les voitures. Donc c'est vraiment aller à Carrefour, on a l'impression que c'est le luxe. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont assez surprenantes dans ce pays. Bon, on va quand même revenir sur du positif. Alors nous avons eu, alors ça, on a eu l'opportunité de voyager un petit peu et c'est vrai qu'il y aura quelque chose d'assez geek au fur et à mesure du voyage. Donc on a eu pu aller aux portes du désert, c'est quand même quelque chose de très sympathique. Alors bien sûr, on a été faire le grand attrape touriste traditionnel que je pense que chaque personne qui va en Tunisie est obligée d'aller faire au moins une fois. C'est du dromadaire. Alors du dromadaire, bah, vous en avez sur les plages, vous en avez dans le désert, vous en avez dans la ville. Bref, c'est quand même quelque chose qui fait un petit peu peur dans le sens où quand ils voyagent en troupeau comme ça, ils sont attachés entre eux et je pense que quand ils ont des problèmes de gabarit, ils peuvent pas mettre tous les mêmes types d'animaux, pas plutôt le même gabarit d'animaux ensemble et j'ai l'impression que des fois certains qu'on doit avoir un petit peu de mal à marcher parce qu'on voit que ça tire sur leur cou et honnêtement, je me suis senti un petit peu coupable de le faire. Si j'avais vu qu'ils étaient tirés comme ça, je pense que je n'aurais pas fait. Honnêtement, je pense que j'aurais peut-être pas voulu tenter le coup, ne serait-ce que pour éviter de faire du mal à ces animaux. Et voilà, peut-être que je me trompe, hein, ça je peux pas. C'était mon ressenti à l'instant T. Et bon, surtout que bon, ils ont l'air de beaucoup marcher parce que ils font au moins 8 ou 9 tours d'une heure par jour avec une personne sur leur dos et attachés par groupe de deux, voire quatre ensemble. Voilà, donc ça c'était le gros attrape-touriste numéro 1 hein, de Tunisie et aussi il y a les calèches qu'on a faites également. Alors, les calèches, n'hésitez pas à négocier. Hein, de toute façon, ils savent très bien dans les pays du Maghreb, j'avais également eu l'opportunité de faire le Maroc, donc je me doutais, il faut vraiment pas hésiter à négocier. Voilà, quand on vous dit c'est 10, il faut dire 2. Notamment, et après, on remonte jusqu'à la limite où vous voyez qu'il va dire bon, ça commence à tiquer, voilà quoi, ça ira ou ça ira pas. Voilà, donc deuxième possibilité, deuxième attraction que j'ai touristique que j'ai pu qu'on a pu faire, c'est du quad dans le désert. Alors moment un peu épique parce que je pense que là-bas, on va dire que les contrôles techniques, que ce soit des véhicules touristiques et de tout ce qui est 2 à 4 roues, je pense que ça n'existe pas du tout. Pour vous donner une idée, ils ont dû aller chercher un quad en catastrophe, ils ont dû le démarrer avec les fils. On avait un quad avec des pneus. Alors, je crois que ce serait des pneus de Formule 1, en fait. C'est ce qu'on aurait dit des slicks, complètement lisses. Et donc voilà, c'était vraiment un truc, quelque chose de très surprenant à faire. Bon, après, les sensations sont quand même amusantes parce que la glisse dans les dunes, c'est quand même autre chose que de faire sur du plat, notamment dans les Hauts-de-France. La sensation de glisse est vraiment sympa, même si c'était que des 250. Or, pour vous donner des idées, normalement sur les quads, pas de compteur qui fonctionnait. Bon, c'était vraiment un peu surprenant. Autre activité qu'on a pu faire, et là ça va être le moment geek du voyage, c'était le voyage en une excursion en 4x4 dans les dunes qui était alors on va dire au départ c'est un peu mitigé parce qu'on fait de la route et on a été dans une oasis dans un premier temps. Cette oasis, c'est vrai que l'accès à l'oasis était un petit peu compliqué, mais c'était sur 1,5 km ou 2, et on avait fait 50 km sur la route. Donc on était vraiment un petit peu déçus. Et finalement, la deuxième partie était. L'oasis était très bien au passage, hein, c'est vraiment très joli, hein, c'est sauvage. Ils ont dû faire des petits ponts, mais c'est vraiment bien intégré dans le paysage. C'est des petits ponts qui permettent de voir un peu. On peut faire irriguer l'eau pour les diverses plantations. Hein. D'ailleurs, au passage, je vais vous expliquer la différence entre une oasis et une palmeraie. Alors, une oasis, ce sont un plan d'eau qui permet de faire qui arrive par une source et c'est naturel. Hein, donc, la végétation, notamment les palmiers, permettent de pousser dans cette zone-là, tandis qu'une palmeraie, c'est dû à de l'irrigation. Donc en général, ce que j'avais compris, c'est que quand on a une oasis, on essaie aussi d'irriguer un peu pour faire des palmeraies pas très loin d'une oasis. Et d'ailleurs, après, il y a un système avec une espèce de sablier pour orienter les parcelles, irriguer les parcelles. Donc ce sont des sabliers, alors dans certains coins, c'est des sabliers de 2 heures, soit pour le matin, soit pour le soir. Oui, tellement que l'eau est rare dans le désert, parce que, notamment les dernières années, puisque nous avons le réchauffement climatique qui est valable partout, et donc ils sont obligés aussi de réduire l'irrigation dans ces zones. Voilà, donc deuxième partie de ce périple en 4x4, où nous avons pu aller à un endroit que je pense beaucoup Linuxiens et autres geeks et amateurs de cinéma rêveraient d'aller voir, c'est la planète Tatooine. Et oui, on a eu l'opportunité, pardon, de se rendre sur le site du tournage de l'épisode 1 de Star Wars. Alors, pas tout. Puisque faut savoir que les épisodes, beaucoup d'épisodes de Star Wars ont été tournés en Tunisie. Le 4, il y avait le 1, puisque nous, moi, le site qu'on a été voir, c'était le site du 1. Mais par exemple, entre deux scènes, il y a des fois 250 à 300 km entre deux sites de tournage. Voilà, hein, c'est. Notamment, je sais que dans l'épisode 4, il y a entre deux plans, je crois qu'il y a 250 km d'écart entre les deux canyons différents. Et donc là, ce qui se passe, c'est que donc c'est le, je pense que c'est Tatooine, hein, c'est la scène où on découvre Anakin dans l'épisode 1. le jeune Anakin, où il est esclave d'un espèce de réparateur de pièces pour les modules de course. Voilà, si je me souviens bien, c'est vrai que ça fait un moment que je l'avais pas vu. Et donc, on a eu l'opportunité de visiter ce décor-là. Donc, le décor date de 1997. Alors, ce qui marque, c'est que c'est vraiment devenu un site touristique. Donc, comme je vous disais, on y est allé en 4x4. D'ailleurs, on est passé par des pistes qui étaient utilisées à l'époque pour le rallye Optique 2000, hein, cher à Johnny Hallyday. Et on a fait ce petit voyage, donc en passant par les dunes, en glissant dans les dunes avec les 4x4. 4x4 qui, au passage, étaient comme les quads. Hein, pas de... Alors, a priori, ce qui est paradoxal, c'est que sur des véhicules de transport touristique comme celui qu'on avait, il y a un compteur qui est censé fonctionner. Mais un compteur, non pas compteur kilométrique sur le tableau de bord, c'est des compteurs un peu particuliers, comme je pense que c'est comme pour les autocars, il y a un système d'enregistrement des distances effectuées, un relevé du kilométrage roulant, etc. Et là, ben, dans celui-là, il n'y avait rien qui fonctionnait. En gros, sur 160, 170 km qu'on a fait dans le désert et sur la route, je crois qu'il s'est enregistré 1,5 km à une moyenne de 5 km/h. Donc ça va, quoi. Pour lui, son Toyota Land Cruiser, il doit pas avoir beaucoup de kilomètres. Bref, cela n'est pas la question, mais ça prouve quelquefois que les véhicules sont un petit peu spéciaux. Hein. D'ailleurs, quand vous voyez sur la route, les endroits un peu moins touristiques, l'état des deux roues, il y en a certains, ils ont même plus de carénage, j'ai même plus des scooters qui ont même plus de quoi poser les pieds, c'est les pieds directement sur le métal. Quand vous voyez certains pick-up qui transportent des dromadaires attachés avec une espèce de sangle, ça fait un peu peur. Et je vais finir avec un dernier truc sur les dromadaires avant de revenir sur le site du tournage de Star Wars. Les dromadaires, ben, au moment donné, comme je vous disais, c'était des endroits très peu touristiques. On a retrouvé des têtes de dromadaires coupées et attachées sur le bord d'un magasin, comme une sorte de. Alors, je ne sais pas si ça devait être une devanture ou une sorte de tête de gondole à l'extérieur du magasin, quoi. Ça avait l'air de. J'avais l'impression que c'était pour attirer le client, quoi. Et lorsque vous arrivez sur ce site du tournage de Star Wars, on retrouve également des os de dromadaires, des crânes de dromadaires à acheter. Vous avez carrément un petit marché touristique, hein, vraiment. Hein. On peut acheter des roses des sables, des colliers divers et variés de. Moi, je pense de basse qualité. On avait bien sûr des boissons et le pompon. Bon, on va dire que ça, à la limite, c'est vraiment au bord du site. On va dire qu'il y a même d'ailleurs une sorte de barrière. Et ça, c'est pareil, ça fait un peu mal au cœur. C'est les enfants qui veulent faire des photos aux touristes en leur donnant un fennec. Et bien sûr, ben, il faut donner une pièce ou quoi, ou un billet pour faire la photo avec le fennec. Cette pauvre bête, elle aurait plutôt envie de courir entre les dunes de sable ou dans les oasis plutôt que de rester à longueur de temps dans les bras de quelqu'un. Elle a l'air complètement apeurée, ça me fait un peu mal au cœur. Et lorsque vous arrivez, donc après ces enfants, ça fait vraiment comme une sorte de barrière, on arrive sur le site. Alors. On voit que c'est un tournage de film. Hein. Comment expliquer? Quand on vous dit c'est les décors de film, c'est du carton-pâte, c'est vraiment le cas. Je veux dire, à l'extérieur, ça ressemble à quelque chose. Ça fait, c'est ça. Il y a encore un cachet. Ces maisons un peu de forme orientale et en même temps futuriste, avec des tuyaux à l'extérieur. Alors, c'est des tuyaux en zinc peint bleu. Il y a des portes aussi qui ont été installées. Alors, des portes en. Ça doit être des moulures en plastique, j'ai l'impression, plus qu'en collé sur des sur pardon pour pardon pour le claquement de main, collé sur du bois. Et donc on a les et on rentre à l'intérieur et là on voit que c'est complètement creux, c'est de l'espèce de voilà, c'est ça tient avec des structures en bois. Il y a des endroits, ça commence à être un peu dégradé, puisque on voit que c'est pas fait pour durer dans le temps, quoi. C'est quand même la date de ça date de 1997. Alors il y a eu un, il y a dû avoir quelques aménagements parce qu'on retrouve il y a des petits endroits où il y a des petits panneaux explicatifs qui sont notés. D'ailleurs, si on voit le passage où il y a Liam Neeson qui discute avec Nathalie Portman dans une dans une de ses maisons, bah on le voit. Mais d'ailleurs, c'est le disque. Pourquoi on voit, les acteurs sont vers l'extérieur? Parce qu'en fait, il n'y a strictement rien autour, quoi. C'est juste une porte. Voilà. Et y a, c'est curieux à voir. C'était intéressant à voir. Mais le pompon de tout ça, c'est quand vous avez le jeune qui débarque avec son quad et qui propose à faire un petit tour pour 5 dinars. Et on a envie de lui dire non, c'est pas le moment, on veut profiter de Star Wars. On a déjà passé le marché avec les têtes de dromadaires et les photos avec les Fennecs. T'as envie de lui dire garçon, attends dehors et laisse-nous un peu profiter du site et essayer de profiter un petit peu de la magie du film. Bah non, lui, il vient avec son quad et il passe en plein milieu. Vroom, vroom, vroom. Bref. À voir et en même temps, ben, ne vous attendez pas à voir un plateau de cinéma, quoi. C'est devenu une attraction touristique comme une autre. Donc, allez-y sans y a priori, vous allez passer un bon moment. Mais si vous vous dites, voilà, ça va être vraiment un site de grand tournage avec des. On va rester, on va l'impression d'être Liam Neeson ou Nathalie Portman ou même Tatiana Binks. Hein. Bref. Après, je ne juge pas ceux qui l'apprécient. Moi, il m'insupporte. C'est pour ça que j'ai du mal à regarder l'épisode 1. Bref, c'est à voir. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui. On va parler un petit peu nourriture. Globalement, ben, c'était très bon. Alors, on a pu manger dans des petits restaurants pour vraiment pas cher. On mange correctement. Et après, bon, dans les hôtels où nous étions, on était dans des hôtels 4 étoiles, où là, on avait le droit à des buffets, où on a pu manger dans un restaurant un peu plus à la carte. Ben, c'était également très bon. Alors, certains disent qu'il faut éviter les crudités, puisqu'il y aurait des problèmes d'hygiène avec l'eau. Moi, j'ai fait, bon, après, chacun va réagir selon son organisme et ses ressentis, hein, mais bon, globalement, on a plusieurs personnes dans le groupe où nous étions qui l'ont fait, on n'a pas eu de malade, donc, et des personnes de tout âge. De différentes corpulences, donc on n'a pas eu de soucis particuliers là-dessus. Donc voilà, je pense que ce petit épisode rapide va conclure cette journée d'Alibi Sextile. Tout simplement parce que, un, je suis encore fatigué puisque le voyage a été un petit peu long pour le retour, puisque j'ai dû me lever bah, il y a 2h10 du matin. Pour un départ à 3h du matin, et bon, après le rapatriement, le rangement, le rapatriement, le transfert à l'aéroport et le retour ont été un petit peu plus compliqués que je ne pensais. Donc, on est rentré il y a peu de temps. Bah, pour vous donner une idée, on est rentré à peine il y a 2 heures. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, et on va dire que la nuit est un petit peu courte, la soirée risque d'être un petit peu fatigante parce que bien sûr à la reprise du travail et dans quelques même pas de 48 heures. Donc voilà. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre fidélité à ce podcast. Grand merci John, Redman et Morgan qui ont enregistré un épisode, hein, donc, comme je le disais, donc il sera disponible dès que le montage sera terminé. Je tenais vraiment à les remercier de leur réactivité parce que ça a été un peu compliqué. Les agendas sont toujours un peu difficiles et on souhaite toujours enregistrer au moins à trois, c'est plus sympa qu'à deux et encore plus facile que tout seul parce que enregistrer face à une barre d'Audacity qui monte plus ou moins, c'est pas motivant dans le sens où on a l'impression de casser des œufs et de faire des blancs et c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais bon voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles. Voilà, je vous dirai pas si je suis au prochain ou pas, j'en ai strictement disponible au prochain épisode ou pas. Déjà là, je ne devais pas l'être, mais bon, on va dire que je voulais quand même vous donner quelques nouvelles et vous donner au moins un épisode par mois, même si celui-ci sera beaucoup plus court que d'habitude. Moi, hein. Voilà, celui-là, vous pourrez peut-être l'écouter sur le trajet du travail et en une seule fois. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez des petites infos, des petits conseils supplémentaires par rapport à un voyage en Tunisie, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit mail, un message sur Facebook ou Twitter en privé ou même en public. Je serai ravi de vous répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre vos 5 étoiles sur Podcast Addict. Bref, votre appli de podcast, ça fait toujours remonter le podcast dans les rangs. Et encore une fois, bah, désolé que ce soit un épisode HS, mais voilà, je pense que le prochain, d'après ce que j'ai lu, je vais teaser un petit peu, le prochain épisode normal où ils sont à 3 risque d'être un épisode fort geekage et dev, algorithmique, bref, du lourd, du technique, du gros, bref, tout ce que vous préférez habituellement à l'apéro des papas manchots. Mais de temps en temps, de faire un HS, ça fait toujours du bien. Hein, et puis bon. On en avait déjà fait un l'année dernière avec Morgane pour parler du voyage en Argentine. Là, cette fois-ci, on parle d'un voyage en Tunisie. Ça, c'était un petit peu plus court puisque j'étais tout seul. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience avec vous pendant près de 30 minutes. Et je vous dis à bientôt. Gardez la pêche et surtout, 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 postez-nous des petits commentaires. Faites-nous des retours. Ça nous fera toujours très plaisir. À bientôt. Salut, salut!